France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. 95, l'esprit de décembre. Épisode 2, la côte 135. Pour se rendre à l'université de Rouen depuis la côte 135, cela prend à peu près 16 minutes en voiture. À vélo, en sens inverse, il faut compter dans les 23 minutes. Mais ni les cheminots du dépôt de Sotteville-lès-Rouen, au sud de la ville, sur la côte 135, ni les étudiants du Mont-Saint-Aignan, sur leur colline au nord de la ville, n'ont vraiment fait le trajet pour se rencontrer et manifester ensemble. Pourtant, ils ont en commun d'avoir été les deux foyers qui allaient embraser la France en ces mois de novembre-décembre 1995.
Nous sommes à la côte 135. Alors, la côte 135 est un lieu mythique et en plus, géographiquement, c'est un point de passage obligé des circulations se rendant du nord au sud et se rendant de l'est à l'ouest, aussi bien dans un sens pair vers Paris ou le sens impair. Et c'est une côte qui s'appelle 135, comme une côte, on dit la côte 122 à l'armée, ou côte. C'est un point militaire, voyez-vous. On atteint toujours une côte, voyez-vous, il y a une côte. Et pourquoi 135? Parce qu'on est à 135 km de la ville de Paris. Donc c'est la côte 135. Et puis elle est mythique parce qu'elle a déjà été prise de haute lutte par les cheminots en 1983, malgré la puissance des CRS et tout ça. Les gars ont résisté, ils ont tenu le haut du pavé, si on peut dire. Maintenant, je viens faire la grève. Pas la grève, mais enfin, je viens faire...
La cuisine pour les grévistes.
Non, je viens... La cuisine, c'est pas toutes ces choses-là. C'est pas les choses bassement matérielles. Je viens apporter une partie de ma ferveur vers les gens qui luttent et qui, j'espère, quand on lutte, on veut une chose, c'est la victoire.
Dans ce coin-là du sud de Rouen, il y a des voies dans tous les sens. À certains endroits, on en compte plus de 40, plus ou moins parallèles, qui se croisent les unes les autres et contournent des bâtiments techniques et des dépôts de la SNCF, comme l'eau d'une rivière glisse sur les flancs des rochers, si vous me permettez cette touche de lyrisme ferroviaire. Le 24 novembre, le dépôt de Sotteville-lès-Rouen est donc le premier de France à se mettre en grève. Les cheminots occupent la côte 135, comme ils l'avaient donc déjà fait en 1983 et 1986, et comme ils le referont en 2019, au moment d'une nouvelle réforme des retraites, cette fois celle d'Elisabeth Borne. Cet endroit est donc un carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour routier, puisqu'il longe le grand boulevard industriel qui est une pénétrante dans Rouen. Il s'agit donc d'un lieu stratégique, d'une position à tenir.
Pourquoi le mouvement a commencé ici? Comment vous l'expliquez, ça, à Sotteville?
Sotteville, c'est une tradition.
C'est pas rouge, Sotteville, c'est un noyau. C'est une tradition. C'est quelque chose de très dur, très concentré, et qu'on a, bien souvent, on a du mal à casser. Vous tapez dessus, vous loupez votre coup. Il faut vraiment bien l'avoir du premier coup, sans quoi ça, vous abîmez votre outil et ça renaît beaucoup plus fort ailleurs. C'est ça, Sotteville et Rouen.
Les cheminots se mettent en grève pour plusieurs motifs. À ce moment-là, l'entreprise était en effet en train de négocier avec l'État le renouvellement de son contrat de plan. Le contrat de plan, c'est un document qui stipule les objectifs que l'État assigne à la SNCF, lequel calcule en échange ce que la SNCF va recevoir comme dotation. L'entreprise étant alors déficitaire, l'État lui demande de faire des économies en vendant par exemple des filiales et en gelant les embauches. Une autre raison de cette grève, c'est la perspective de l'ouverture à la concurrence des lignes de train françaises dans le cadre de la déréglementation européenne et qui inquiète les cheminots. La troisième raison, enfin, c'est le plan Juppé qui entend mettre fin aux régimes spéciaux de retraite et aligner les personnels de la SNCF sur ceux du secteur privé. Du fait de l'importance historique et stratégique de la côte 135, les grévistes de Rouen sont particulièrement mobilisés. Ce qui fait que durant 3 semaines, aucun train ne va circuler sur la ligne entre Paris et Caen.
Les cheminots sont donc de nouveau en grève aujourd'hui pour la troisième fois en 15 jours. 5 des 7 fédérations de la SNCF ont appelé à des arrêts de travail. Les premières perturbations ont commencé hier soir et elles dureront toute cette journée de mercredi. En gros, sachez qu'il y a du côté des grandes lignes un train sur 3 qui circule et 2 TGV sur 3. Pour la banlieue Île-de-France, on annonce 3 trains sur 4 pour les gares de l'Est et de Lyon, 2 sur 3 pour Paris Nord.
Et c'est le moment où l'infotrafic deviendrait presque aussi belle que la météo marine.
253 hectopascales entre Islande et Féroé.
Xavier Vignat, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste notamment des mondes ouvriers. Alors la Côte 135, c'est un lieu mythique des mobilisations cheminotes. Or, les lieux emblématiques, c'est important, j'imagine, dans ce genre de conflit.
Oui. C'est amusant parce que les conflits ne démarrent jamais tout à fait par hasard dans certains endroits. Et ce qui est intéressant, c'est que on est là à 135 km de Paris. Le mouvement ne démarre pas, la grève proprement dite ne démarre pas dans la région ou à Paris même. Et c'est exactement la même chose qui s'est produite en 68, la grève des cheminots en 68, elle ne part pas de Paris, elle part d'Achères, en région parisienne. Et puis, en 53, le dernier grand mouvement de grève des fonctionnaires contre une réforme des retraites était parti des postiers de Bordeaux, en 53. Et donc, vous voyez, on est là dans des groupes professionnels, soudés, à l'écart des grandes villes, et partent en grève sur toute une série de revendications dont vous avez rappelé les modalités.
Mais il y a quelque chose d'un petit peu mythique dans ce lieu qui est une sorte de bastide à défendre. Il y a quand même quelque chose un peu narratif aussi, d'une histoire qui se raconte autour de cette Côte 135. Même le nom de Côte 135 a quelque chose de guerrier, de militaire.
Oui, alors là... Alors je ne connais pas cette côte proprement dite, mais on voit ici tout le poids d'une tradition orale, militante, qui va ériger un bastion qui s'est construit progressivement dans les luttes et qu'il faut à la fois défendre et entretenir. C'est-à-dire que repartir en grève, c'est montrer la consistance de cette côte 135, sa valeur. Et sa valeur à la fois dans l'agglomération rouennaise, parce que c'est Sotteville pour Rouen, et puis sans doute aussi à l'échelle des cheminots. Voilà, on connaît la Côte 135.
Donc puiser dans l'histoire pour y trouver une force.
Puiser, attiser, réactiver une mémoire des luttes pour entretenir le combat qui est en train de commencer.
Donc on se retrouve à Rouen avec deux mouvements qui sont parallèles, les étudiants au nord de la ville et puis les cheminots au sud. Pourquoi est-ce que, alors qu'en effet ils sont tout proches, il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de défilé commun, chacun finalement reste un petit peu sur son coin de la ville?
Sans doute parce que tout un imaginaire et une culture politique se sont transformés en 30 ans. En gros, en 68... il y a un poids très important de ce que j'appelle la centralité ouvrière. C'est-à-dire l'idée que, en fait, les ouvriers décident de ce qui va se passer dans le pays. En 95, cette centralité ouvrière, elle a largement disparu.
Donc les ouvriers n'ont plus le même poids. Les étudiants n'ont pas envie forcément de suivre les ouvriers parce que c'est plus eux qui mènent la danse.
Voilà, ils n'ont plus le même poids numérique, social, et puis ils n'ont surtout plus le même poids symbolique. Ils n'incarnent plus l'avenir. Ils subissent la désindustrialisation. Et donc les étudiants, surtout quand il s'agit d'étudiants de sciences qui sont moins politisés, ils vont d'abord se mobiliser sur des questions proprement étudiantes.
Le grand absent de cette première séquence de la grève, c'est le président de la République lui-même qui n'intervient pas publiquement. Jacques Chirac se contente de prendre la parole ça et là au sujet de son domaine réservé, celui de la politique étrangère.
Au sommaire de ce journal, la grève des fonctionnaires...
Le 26 octobre, après le journal de 20h de France 2, il apparaît cependant à la télévision pour répondre aux questions d'Alain Duhamel. Mais le contexte des grèves est à peine évoqué. Chirac choisit d'axer son discours sur la réduction des déficits.
Aujourd'hui, je le répète, la France a un problème qui n'est pas un problème de nature économique. Notre économie se porte bien. Elle est dynamique, elle est vigoureuse, elle exporte. Elle a un problème financier, elle a des déficits. Et donc la priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard, de façon à rétablir les équilibres. C'est un effort à faire pendant 2 ans. Mais mon objectif, quand je lutte contre les déficits, et quand j'en fais la priorité absolue, Ce n'est pas un objectif de monnaie unique, d'Europe. C'est la lutte contre le chômage, qui lui-même est générateur de dépenses supplémentaires et de fractures sociales.
Xavier Vignat, un commentaire sur cette archive.
Elle est savoureuse. Le Chirac de la campagne du printemps a disparu pour laisser place à un Chirac garant de l'orthodoxie financière. Et évidemment, ce discours-là, il passe mal.
Donc en 1995, le déficit du budget de la France était de 5%, exactement comme cette année 2025. Mais la dette était de 50% du PIB contre 114% aujourd'hui. Et pourtant, on a l'impression que les termes du débat, les mots employés sont totalement actuels et qu'on pourrait entendre exactement les mêmes mots et de part et d'autre, au fond, aujourd'hui.
Oui, ce qui est amusant, c'est que, sauf erreur de ma part, le déficit, l'ampleur de la dette a considérablement augmenté pendant que Édouard Balladur était Premier ministre. La dette a augmenté de 10 points en 2 ans, ce qui est colossal. Et ce qui montre que cette politique où l'État dépense pour soutenir l'activité des entreprises, elle est extrêmement coûteuse d'un point de vue budgétaire.
On a vu dans une autre série de Salles des Archives consacrées à l'ancien président qu'il avait pu naviguer entre le gaullisme social et la droite ultralibérale, jusqu'à son fameux discours écologiste où il avait déclaré
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».
Bref, Jacques Chirac a finalement été assez plastique politiquement parlant. Aussi, il n'est pas certain que le thème de la fracture sociale ait été pour lui un pur mensonge, uniquement destiné à se faire élire. Et pourtant, une fois au pouvoir, le lyrisme de la campagne s'est changé en un discours technocratique. En fait, tout cela s'est sans doute joué à très peu de choses. Voyons pourquoi.
Jospin ou Chirac, il est presque 20h.
Dans les jours qui ont suivi son élection à la présidence de la République, en effet, plusieurs options politiques se sont présentées à Jacques Chirac. Il a eu à faire un choix entre deux visions, incarnées chacune par ses proches soutiens, l'un comme l'autre étant d'ailleurs prétendant à Matignon. Le premier de ses soutiens s'appelle Philippe Séguin. C'est le fils d'une institutrice et d'un père mort au combat en 1944, qu'il a donc à peine connu. Dans sa jeunesse, Séguin a commencé par militer à l'UNEF, époque où il était même proche du Parti Socialiste Unifié, l'aile centriste du Parti Socialiste. Mais c'est dans le gaullisme, et en particulier le gaullisme social, qu'il va se retrouver véritablement. Sa droite à lui, c'est celle d'un État fort et protecteur, d'un État qui planifie et qui soutient les moins riches, catégorie sociale dont il est lui-même issu. Face à lui, Alain Juppé. Son profil est technocratique, libéral, européen. Contrairement à Philippe Séguin, Juppé a fait campagne en 1992 en faveur du traité de Maastricht qui renforce l'intégration européenne. Entre les deux hommes et les deux lignes politiques qu'ils représentent, le cœur de Jacques Chirac balance un moment. Mais le 17 mai, 10 jours après son élection, c'est Alain Juppé qu'il nomme à Matignon. Mitterrand avait pris 2 ans pour faire son tournant de la rigueur. Chirac passe en 10 jours de la fracture sociale à la rationalité financière. Xavier Vignat, vous n'êtes pas dans la tête de Jacques Chirac, mais est-ce que vous comprenez ce qui a pu se passer à ce moment-là quand il a dû choisir entre finalement les deux lignes incarnées par ces deux soutiens visibles ?
Alors, je ne suis pas Jacques Chirac, je ne suis pas dans sa tête. Simplement, en 1992, au moment de la campagne référendaire sur le traité de Maastricht, Chirac avait choisi Juppé, avait fait campagne.
Même s'il n'était pas forcément...
C'était pas un des plus fervents partisans.
Très fervent partisan voilà. De la construction européenne.
Mais en même temps, il avait fait plutôt campagne pour le oui au traité de Maastricht. Et donc, il était au moins à ce niveau-là en cohérence.
S'il y en a un qui se réjouit en revanche du tournant rigoriste de Chirac, c'est l'ancien Premier ministre et ex-ami de 30 ans du président, Édouard Balladur. Un fervent partisan de la ligne orthodoxe, Archive, le 30 octobre 1995.
Je constate une chose, c'est que tout ce qu'on avait dit sur l'autre politique possible semble ne plus être d'actualité. Quant à la pensée unique, vous savez, on me faisait le grief d'être, de considérer que j'étais le détenteur de la pensée unique. Eh ben, je constate que tout se passe comme si c'était la pensée unique qui finalement devait l'emporter. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire quelque chose de très très clair et de très très simple. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de progrès de l'économie et il n'y a pas de diminution du chômage.
Édouard Balladur, c'est quelqu'un qui apparaît, de par son élocution, de par sa manière d'être, comme l'incarnation de la grande bourgeoisie, sûre d'elle-même et qui pense qu'il n'y a qu'une manière et une seule de gouverner. Bon. Et donc, Plantu, donc le caricaturiste du Monde, avait l'habitude de le représenter en chaise à porteurs, voilà. Et dans l'imaginaire politique français, quelqu'un qui est ainsi caricaturé, il a du mal à être parfaitement légitime dans le pays.
Même s'il a été très populaire quand il était Premier ministre.
Oui, mais fugacement.
Premier mois.
Oui, voilà, fugacement. Mais très vite, les difficultés économiques, l'augmentation du chômage, fait que sa popularité baisse.
Parmi les points d'achoppement qui conduisent à la grève des cheminots, il y a la volonté du gouvernement de modifier leur régime de retraite, on l'a dit. Pas étonnant que cette question se retrouve dans les conversations sur les piquets de grève de la Côte 135.
Moi, je travaille.
Ah ouais, moi, je suis en grève, c'est pas pareil.
Mais vous, vous êtes un ancien cheminot ?
Ah non, moi, je suis cheminot. Pourquoi je fais si vieux ?
Ce brave homme.
Je fais si vieux que ça ?
Ah non, je sais pas. Non.
Moi, 42
ans. 48 ?
Ah, tu vois, tu me rajeunis, c'est sympa.
On va être des frères. Ah non, moi, 48. J'ai eu la chance de partir à 50 ans.
Moi, je partirais à 55.
Juppé voulait nous la donner. Je voulais donner la retraite à 55 ans. Et le chef de dépôt est venu avec un de ses subordonnés. Au début de la grève, pensant que ça allait péricliter, disait bah, maintenant c'est facile, 55. Puis c'est encore bien payé. Mais alors là, il s'est franchement mis le doigt dans l'œil.
Xavier Vignat, certains ont vu cette revendication comme anachronique par rapport aux conditions de travail des cheminots. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, il faut entendre le dialogue et l'ouvrier, le cheminot qui a 48 ans, quand il parle avec la femme, la femme est surprise, elle a l'impression qu'il est assez âgé. Et il dit, est-ce que je fais si vieux ? En réalité, toute la question est de mesurer la pénibilité du travail et ses effets sur les personnels. Alors, on ne sait pas, avec ce qu'on entend, quelles sont les conditions de cet homme, ses conditions de travail, ses conditions de vie, etc. Mais ce sont des métiers assurément éprouvants. Et la pénibilité du travail, la pénibilité des conditions, la disponibilité, le fait de devoir travailler potentiellement tous les jours de l'année, fait que ces hommes et ces femmes avaient acquis la possibilité de partir en retraite plus tôt, et ils considèrent que c'est un droit qu'il doit être conservé.
Je suis frappé par le fait que, pour la première fois, on voit ressurgir un monde qui n'avait pas disparu, mais qu'on avait occulté, qui est tout simplement le monde du travail. Parce que ce qui tenait la une de l'actualité ou des médias, de bonne ou mauvaise foi, aucune importance, nous sommes tous responsables, c'était les SDF, c'était les loubars, c'était les zonards des banlieues, bref, tout ce qui est en dehors du monde du travail. Ça occupait le devant de la scène pour occulter ce qui, en fait, inquiète précisément le libéralisme qui nous gouverne. C'est-à-dire le monde du travail, parce que si eux ils s'arrêtent de travailler, on en voit immédiatement les conséquences. Si un SDF, j'ai rien contre eux, c'est même un préjudice pour eux cette manœuvre, mais si un SDF s'arrête de travailler ou bien un casseur de voiture en banlieue, c'est pas ça qui empêche le patronat ou le grand capital international de dormir, vous comprenez ? Tandis que là, pour la première fois, il y a ce réveil de cette force qui inquiète le libéralisme, et je crois pas seulement au niveau français. Et moi, je suis franchouillard, mais je suis content de retrouver un policier qui a vécu la guerre. Moi, je retrouve ma France. Je ne suis pas franchouillard comme Le Pen, à chacun sa France. Hein. Moi, c'est l'inverse. Moi, je retrouve la France de 89, celle de 48, qui donne l'exemple à l'Europe.
Un micro-trottoir de janvier 1996. Moi, je retrouve ma France dans les grèves, dit ce passant qui soutient donc les grévistes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Xavier Vignat ?
Le propos est très intéressant parce que il est donc. Je pense que je complexifierais un tout petit peu le discours de ce monsieur. Les grandes figures dont on parlait au début des années 90. C'était les chefs d'entreprise, c'était les entrepreneurs. Il y avait deux grandes figures à l'époque, hein, Jacques Calvet,
Peugeot, le PDG de Peugeot.
PSA, oui, c'est ça. Et puis l'autre figure dont on parlait tout le temps, c'était Bernard Tapie.
On parlait quand même à la télévision pas mal des plans sociaux.
Oui, mais enfin, pas mal, je ne sais pas, il faudrait vérifier.
Aux informations, oui.
Oui, mais c'était sur la chronique sociale triste. Et l'idée que ce qui comptait, justement, c'est ce qu'allaient faire les entrepreneurs pour sauver la France. Et donc, les figures héroïques, c'était les entrepreneurs. C'était Tapie, c'était Calvet, c'était Francine Gomez, enfin, il y en avait plein. Et là, ce que dit ce monsieur, c'est que les héros, ce sont ceux qui font travailler la France. Voilà, ceux qui font vivre le pays. Ce monde du travail. Et Encore une fois, il inscrit ce mouvement dans une longue histoire des mouvements sociaux, hein, depuis la Révolution, 1848. Et bon, il n'a pas parlé de 36 et 68, mais évidemment, c'est dans, dans sa mémoire-là.
Et alors, quelle est la place justement des ouvriers dans ce conflit? Parce que c'est beaucoup les cheminots qui l'ont mené avec les professeurs et la fonction publique. Il y a eu aussi un petit peu EDF à certains moments. Mais enfin, la sphère publique quand même, pas tellement les ouvriers au fond.
Alors, ils sont pas présents parce que c'est un monde qui est en crise, en réalité. La France est en train, à ce moment-là, de se désindustrialiser de manière sensible. Et donc, la priorité des personnels qui travaillent, c'est de conserver leur emploi. Bon. Et puis, ils sont pas
en position de force.
Ils sont pas en position de force. Et puis, ils sont pas directement concernés par ce plan Juppé. En revanche, on va les retrouver de manière beaucoup plus importante les week-ends lors des manifestations. C'est-à-dire que on a une absence relative du secteur privé dans les grèves, qui est en partie compensée dans une présence dans les manifestations.
Mais est-ce qu'un ouvrier des forges, par exemple, peut s'identifier à je sais pas, des professeurs d'université en grève?
Pas sûr, et pas facilement.
Or, c'était quand même plutôt, encore une fois, le secteur public qui était en grève.
Alors, oui, mais le secteur public en grève, manifestement, c'était pas... Bon, il y avait évidemment des collègues à l'université qui étaient en grève, mais les gros bastions du secteur public, ce sont le monde du travail, dans les hôpitaux, à la poste, dans les entreprises publiques, etc. Et qui ont des métiers parfois manuels et parfois physiques. Et donc, qui, à bien des égards, ont des traits en commun avec l'ouvrier des forges dont vous parlez. Et par ailleurs, un des points importants, c'est qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on dessinait. Et ce tous ensemble de 95, il incluait l'ouvrier des forges.
Charpentier, imprimeur, mécanicien, tourneur, de vieilles manufactures ou d'usines de chaussures, de crise économique en restructuration, de fermeture d'usines et de chantiers en perdition. Salut, c'est nous, nous sommes les ouvriers. Manufacture de coton, de laine et de soie, les forges de chez Renault, chantier de la Ciotat, d'où sortaient des bagnoles, des paquebots et du tissu. Il y en avait du boulot, ben aujourd'hui, il n'y en a plus. Cadence, précarité, nous sommes les ouvriers.
L'ampleur des manifestations qui montent commence à attiser les comparaisons historiques avec un autre moment social très important, une révolution, diraient certains, le mouvement de mai 68.
Nous sommes derrière. Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens.
Écoutez de nouveau cet homme interrogé dans la rue qui livre son analyse sur la comparaison 68-95.
J'ai bien vécu 68, j'avais 20 ans bien sûr, mais je peux vous dire que non seulement c'est différent, mais c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse, sur beaucoup de points, mais c'est étrange la symétrie. La CFDT a la position exactement inverse, si vous voulez. Ce n'est pas les étudiants qui ont le mouvement et les ouvriers qui emboîtent le pas, c'est l'inverse. Les gens sont plutôt marginalisés dans le conflit. C'est eux qui sont plus catégoriels comme revendications, nous voulons des profs, nous voulons, etc. Alors que les travailleurs de la SNCF ou de la RATP posent des problèmes de société, c'est tout de même troublant. C'est l'inverse sur bien des points. Hein. Je ne dis pas que c'est hostile, hein, mais c'est l'inverse. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que actuellement, il y a un petit peu un quart de siècle de mensonges. Il y a toujours eu du mensonge, hein, mais le mensonge spécifique dont nous souffrons actuellement, c'est celui qui a été mis en place à partir de 68. Je vous semblais très politique, mais à partir de 68, je crois que tout le monde peut reconnaître les chiffres, il y a deux forces politiques qui régressent en France, c'est le gaullisme et le communisme. Ben, ça nous a mis dans les draps que vous voyez. Et actuellement, cette mise en place est en train de buter sur un ras-le-bol. Simplement. C'est une position personnelle que je suis en train de dire. Je suis ni gaulliste ni communiste, mais je constate que depuis que ces deux forces ont régressé, eh ben, il y a un désespoir qui s'installe en France.
C'est française. Je vous ai tout pris ou je vous ai compris.
Quelles autres comparaisons vous pourriez faire entre 68 et 95, puisque votre livre commence en 68 et se termine en 95? On imagine que ce n'est pas par hasard que vous avez choisi ces deux dates.
Alors, on a des phénomènes de grève beaucoup plus massifs en 68 qu'en 95. Ce qui me semble important, c'est l'inversion entre le rapport entre la manifestation et la grève. C'est-à-dire que en 95, ce qui compte, ce qui scande le mouvement, ce sont les journées de grève, avec le fameux Juppéton pour faire tomber Juppé.
Enfin, les jours de manifestation.
Les jours de grandes manifestations interprofessionnelles. Évidemment que la continuité du mouvement est assurée par les grévistes, mais on a une série de grandes manifestations.
Donc 95, c'est les manifestations. C'est les manifestations. Et 68, c'est la grève. Ce sont les grèves.
Voilà. Ça, c'est la première
chose. Et donc, ça signifie le passage du monde ouvrier à une contestation qui est portée par d'autres types de personnel, c'est ça?
C'est le fait que il est beaucoup plus compliqué en 95 de se lancer dans un mouvement de grève reconductible. Et donc, ça témoigne de l'affaiblissement du monde du travail. L'autre grande différence que je vois, c'est que en 68, la composante parisienne pèse d'un poids déterminant. En 95, c'est pas du tout le cas. À Paris, parce qu'il est difficile de se rendre en manifestation quand il y a plus de transport en commun, les manifestations sont importantes, certes, mais jamais énormes. Les plus gros cortèges en 95 se retrouvent en province. Alors, on parlait de Rouen au début de l'émission, à Toulouse, à Marseille.
Il y a aussi cette idée qu'en 1968, on manifeste pour la liberté et finalement un peu contre l'État. Alors que en 95, on réclame davantage d'État. On réclame pas davantage de liberté pour soi. C'est quand même une grosse différence, non?
Oui, l'État gaulliste en 68 est un État qui apparaît comme un État autoritaire, à bien des égards réactionnaire. En 95, l'État apparaît comme un État protecteur, un État qui peut être au service de la société. Et la priorité, c'est de reconstruire la société, de retisser ses filets de sécurité.
Alors que les grèves se durcissent un peu partout, les équipes de radio vont à la rencontre des piquets de grève pour alimenter les journaux. Dans le journal du 12 décembre, par exemple, on peut entendre le témoignage d'un couple qui tente de concilier vie de famille et engagement dans le conflit social.
On ira jusqu'au bout, de toute façon, on ira jusqu'au bout. On veut la retraite, on veut que ça ne bouge pas, que ça reste comme avant. Juppé, au revoir. On a la forme, on l'aura la forme. Même pour les fêtes, si ça va jusqu'aux fêtes, c'est pas grave. Mais on aura ce qu'on veut, c'est tout.
Là, je suis bien.
On est bien, et tous ensemble, on est bien.
On est en cœur, c'est cool.
On est tous en cœur, c'est bien. C'est la première grève que je fais et puis je suis heureux. C'est une chose que je découvre et que j'aurais pu découvrir avant. Mais là, c'est vraiment... c'est super.
Je soutiens à fond. C'est dur. On a une petite fille à notre charge. On lui explique qu'il y a grève, que les cheminots, tout ce qui se passe, qu'on les a dû lui faire comprendre. Mais je crois quand même, je vais l'envoyer chez ma famille parce que nous, on pourra pas faire les fêtes avec elle, quoi. C'est pas possible.
La grève, c'est difficile, mais ça peut être aussi exaltant comme ça semble être le cas pour ce couple, en tous les cas.
Oui, la double dimension est toujours là. La joie, très importante, parce que ce jeune couple, il le dit, c'est leur première grève, donc c'est super, il y a une espèce de transgression joyeuse, on travaille pas, on est tous ensemble, on entend les klaxons, etc. Bon, alors on sait pas si le son a été pris dans une manifestation, mais c'est probable, hein, donc il y a cette espèce d'effervescence joyeuse. Et puis, ça on l'oublie, mais c'est tout le temps le cas, leurs filles vont être obligées de la confier, parce que la grève, c'est des sacrifices. Voilà. Les grévistes, contrairement à ce qu'on raconte, perdent des journées de salaire. Et donc, dans les contraintes budgétaires, ça va, la grève pèse. Et donc, il faut faire attention.
Donc, on entend là que c'est un couple qui va manifester. Il y a aussi eu des manifestations de femmes sur des revendications qui, là, pour le coup, étaient féministes.
Oui, il y a eu une journée de grève sur des revendications féministes à l'automne, qui fait partie de cette préhistoire du mouvement et qui facilite la mobilisation de larges segments de la société. Après, ces manifestations féministes facilitent la mobilisation de la composante féminine du monde du travail. Et on retrouve là des hommes et des femmes qui sont dans le mouvement.
À la fin du mois de novembre, et à mesure que le froid s'installe sur le pays, les Français sont pris dans le chaudron de la grève et des manifestations, avec bonheur ou avec agacement. Cet état d'esprit différent que permet la parenthèse des grèves, les combines du quotidien aussi, nous vous proposons de les revivre dans le prochain épisode et avec des archives.
Je viens apporter une partie de ma ferveur vers les gens qui luttent et qui, j'espère, quand on lutte, on veut une chose, c'est la victoire.
C'était 95, l'esprit de décembre, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Xavier Joly. Attaché de production Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost, prise de son Anthony Thomasson, mixage Olivier Arnay.